Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est avec beaucoup de joie et même d'émotion que ce soir nous prononçons quelques mots, parce que la sainte que nous vénérons à ce jour est une sainte splendide, parce qu'elle est un résumé de l'Évangile, surtout de cet Évangile que nous avons proclamé en ce jour. Présence de Dieu dans l'homme, c'est facile pour nous d'une certaine manière de croire qu'il est présent dans le Saint-Sacrement. Il ne suffit que la foi et nous l'adorons, nous concevons l'inconcevable. Mais croire que Dieu est présent dans le pauvre, croire que Dieu est présent dans celui qui a faim, croire qu'il est présent dans celui qui a soif, dans celui qui est malade, dans celui qui est prisonnier, il faut un surplus de foi. Un jour, Mère Teresa de Calcutta, la bienheureuse, alors qu'elle soignait un moribond, ce moribond avait des gestes peu convenants envers elle, sans gratitude. Elle disait, Seigneur, comme tu te caches bien, comme tu te caches bien. Parce que vraiment, cette présence est une présence réelle. Comme le Seigneur est présent dans la parole que nous proclamons, dans ses ministres, comme il est présent, nous dit le Concile, dans l'assemblée qui célèbre, comme il est présent d'une manière toute particulière dans les saintes espèces, il est aussi présent dans le pauvre. Et il a dit, à chaque fois que vous ferez quelque chose à un de ces petits qui sont mes frères, vous l'aurez fait à moi. Et nous devons avoir la même foi que lorsqu'il nous dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. La foi de sa présence vraiment réelle dans chacun de nos frères, et surtout dans ceux qui sont plus dans le besoin. C'est ce qui a donné un regard neuf à Sainte Élisabeth. Elle pouvait se pencher sur la misère des autres parce qu'elle savait de se pencher sur son Seigneur. Et lorsqu'elle aurait eu, d'une certaine manière, la possibilité, après une vie tourmentée, nous l'avons médité ces jours-ci, de pouvoir acquérir de nouveau tous ses droits, elle a tout délaissé et considéré tout comme une balayure, comme dit Saint Paul. Pourquoi ? Devant la sublimité de la connaissance du mystère du Christ. Ce Christ pauvre et crucifié. Tout pour elle, et le tout était devenu vraiment le tout. C'était vraiment pour elle un feu d'amour, à tel point qu'elle s'est baissée constamment dans sa courte vie, puisqu'il n'a fallu que 24 ans pour faire mûrir en elle toutes ses germes de sainteté. 24 ans où elle a manifesté un amour immense pour les plus démunis, pour les plus délaissés, pour les plus pauvres. Et c'est pour moi, fils de Saint François, et pour vous, fils de Saint François et fille de Saint François, un message clair. Notre attention doit être vers la pauvreté de l'homme. Quelquefois une pauvreté humaine, une pauvreté spirituelle, sans délaisser aussi une pauvreté matérielle. Tout ce qui rend l'homme abject, quelquefois aux yeux des autres, devrait être pour nous un stimulant pour l'approcher. Et je vois combien j'ai besoin de Seigneur, de lui dire, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Et je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons faire cette prière. Le temps de formation a confirmé notre persuasion que le Seigneur nous appelle à vivre l'Évangile en prenant pour modèle Saint François d'Assise. En ces quelques mots, il est dit le pourquoi de votre choix et de du choix même des frères mineurs. Car la règle de vie des frères mineurs, c'est vivre l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en obéissance, sans rien de propre et en chasteté, sur l'exemple de notre Père Saint François, suivant ses traces. Et vous aussi, vous avez cette persuasion intérieure, qui est mystérieuse, que le Seigneur vous invite à vivre d'une manière toute particulière cet attachement à l'Évangile en suivant cet exemple de ce fou aux yeux du monde, de celui qui vraiment a été une image vive du Christ au milieu des hommes, qu'il a aimé plus peut-être que tout homme. Chacun tire l'eau à son moulin, mais je pense vraiment que Saint François, c'est le plus grand des saints pour cela, pour cet amour qu'il a eu démesuré à tel point qu'il a été semblable en lui, à lui, même dans les blessures, dans ces plaies qu'il a portées, qui n'était pas un ornement, mais qui était cette conformité au Christ souffrant et au Christ aimant, puisque le Christ a souffert en nous aimant. Je pensais, quelquefois, mais alors vivre l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un peu le but de chaque vie chrétienne, n'y a pas besoin d'être franciscain pour cela. Chaque baptisé a ce devoir de vivre l'évangile dans sa vie. Mais je pensais que le Seigneur a appelé tous les hommes à entrer dans son royaume. Il a fait aller ses serviteurs même dans les endroits les moins convenables pour les appeler à ce royaume. Mais certains, il les a appelés pour être des disciples. D'autres ont été appelés pour être des apôtres, des envoyés. Et à l'intérieur même du groupe des apôtres, il y a eu Jacques, Jean et Pierre qui ont été appelés à être des témoins particuliers, privilégiés. Donc tous, nous faisons partie du même corps. Tous, nous agissons animés par le même esprit. Mais tous, nous n'avons pas ce même rôle dans ce corps. Et si le Seigneur a eu un regard de bienveillance sur nos vies, s'il nous a appelés à une vocation particulière dans la vocation à la sainteté, c'est pour que nous puissions nous-mêmes nous réaliser comme personnes et surtout contribuer à ce projet d'amour que le Seigneur a pour nos frères. Parce que chaque vocation n'est jamais une fin à elle-même ou pour la personne qui la reçoit. Elle est toujours en vue de l'édification du corps qui est l'Église. Et aujourd'hui, vous êtes appelés d'une manière toute particulière à cette édification. Même plus encore, dans les demandes qui vous seront posées, la première ou la deuxième, je crois, non, la troisième, c'est, je vous dirai, voulez-vous vous lier plus étroitement à l'Église et travailler à sa réédification permanente et à sa mission parmi les hommes? Voilà la mission du franciscain, réédifier en permanence l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce commandement avait été dans le rêve de François, « Va et répare mon Église ». Mais cette vocation est passée à chaque fils de Saint François. Chaque fils de Saint François doit être lié d'une manière toute particulière à l'Église. Et une des conditions pour votre entrée dans le tiers ordre, c'est de professer la foi de l'Église catholique, apostolique et romaine, d'aimer l'Église et ses pasteurs, mais aussi être donc dans ce lien de vouloir constamment réédifier cette Église. Et comment vous allez pouvoir la réédifier ? On ne va pas se mettre à aller en Castanitch à repeindre les façades. Non, comme François peut-être avait compris quand il est allé dans la plaine d'Assise pour reconstruire ses petites chapelles. Mais après, il a réédifié à travers la sainteté de sa vie. Alors nous tous, nous allons pouvoir être des bâtisseurs lorsque nous allons nous réédifier nous-mêmes. Lorsque petit à petit, ce vieil homme voudra disparaître pour laisser passer la grâce et transparaître la grâce aux yeux de ses frères, comme sainte Élisabeth. Elle a réédifié son monde en devenant une sainte. Et je suis ému de penser que notre ordre franciscain est riche de centaines de saints canonisés et de milliers de saints qui sont peut-être méconnus. Et donc, vous n'êtes pas seul dans cette affaire, nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Nous avons la grâce d'être soutenus par une foule immense, une foule qui nous encourage aujourd'hui. Élisabeth, Louis, roi de France, notre père Saint-François, la mère Sainte-Claire, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Théophile de Corté, et tant d'autres saints franciscains, franciscaines, Clarisse ou Saint-Tertiaire, qui vous invitent aujourd'hui à tout jeter, à tout parier sur cet amour de Dieu. C'est important, ce sera l'œuvre de l'Esprit. Là, votre ministre, remercions Dieu, elle a dit, et elle a invoqué le don de l'Esprit aussi sur cette fraternité. Parce que vous êtes rentré dans un ordre, vous rentrez dans un ordre et dans une fraternité qui existe, que vous n'êtes pas choisi, qui a ses caractéristiques. Et c'est beau de voir ici dans notre église aujourd'hui des tertiaires qui font partie de cette famille. Tertiaire, ce n'est pas la vie montante. Ce n'est pas le troisième âge, ou le quatrième, ou le cinquième. Tertiaire, c'est la famille de Saint-François, une sainte famille qui se réunit, qui prie ensemble, qui choisit de vivre vraiment ce lien d'amour avec le Seigneur selon l'esprit de François et de Claire d'Assise. Et c'est beau de voir qu'aujourd'hui, vous êtes ce poumon nouveau. Remercions Dieu, votre venue parmi nous et parmi tous les frères, dira Madeleine lorsqu'elle recevra votre profession, est un motif de joie et d'espoir. Un motif de joie et d'espoir pour la Corse. Aujourd'hui, on parle tant de fois du rôle des laïcs, et c'est merveilleux d'y penser. Combien vraiment le laïc doit être celle de la terre, lumière du monde, Combien vous, à travers cet ordre laïcal, vous rentrez dans l'Église pour lui donner ce visage de François et faire transparaître ce charisme au milieu de vos frères? Alors ça suffira pour ce soir, tant d'une mission. Reposez-vous, parce que c'est Jésus qui fait tout cela. C'est l'Esprit de Dieu, sa sainte opération, comme disait notre Père Saint François. À nous, il ne demande que le petit oui de Marie. Lorsque nous avons fait la retraite, vous avez médité sur l'Annonciation et sur le oui que la Vierge Marie a prononcé devant le dessein de Dieu. C'est vraiment ce que le Seigneur nous demande. Dire notre oui, afin que lui puisse faire de grandes choses à travers nous. Il ne demande pas ni la capacité, ni des efforts suprêmes, mais la disponibilité et la volonté du cœur. Amen.